Omer Bartoff, l'armée d'Hitler, la Wehrmacht, les nazis et la guerre. Confrontée à des conditions de guerre épouvantables, l'armée allemande a connu la déroute dès la fin 1941. Elle a alors été contrainte d'enrôler sans cesse de nouvelles recrues. Elle est devenue une armée de masse. L'armée du Troisième Reich se contenta-t-elle d'exécuter avec une remarquable compétence des ordres reçus? Ou fut-elle très politisée? Échappa-t-elle à l'emprise du régime ou s'en fit-elle la propagandiste zélée? Bref, la Wehrmacht fut-elle l'armée d'Hitler? Omer Bartoff, professeur d'histoire contemporaine à Brown University, USA, apporte des réponses précises à ces questions, contribuant, de manière importante, à la compréhension du nazisme. Entre 1918 et 1939, les hommes avaient fini par se convaincre que la combinaison de la mitrailleuse et du fil barbelé, qui avait conduit à l'impasse sur le front de l'Ouest pendant la Grande Guerre, resterait une caractéristique permanente de la guerre moderne. Mais pendant les deux premières années de la Seconde Guerre mondiale, les chars et les avions de la Wehrmacht accélérèrent le rythme des combats au point de donner l'impression que l'idée même de front semblait avoir disparu. La guerre devint l'affaire de professionnels très bien entraînés, utilisant des engins sophistiqués et menant des campagnes rapides et spectaculaires. Après le déclenchement de l'opération Barbarossa, cependant, le déséquilibre frappant entre les éléments modernes et les éléments obsolètes de l'austère, déjà évident pendant la campagne de l'Ouest, devint insurmontable à cause de l'immensité de l'espace russe et de la force et de la détermination de l'armée rouge. En conséquence, l'austère dut étaler ses lignes sur un front démesurément long dans les profondeurs de l'Union soviétique. Le front reprit le caractère associé à la Grande Guerre, et la guerre du combattant de l'Est, Ostkämpfer, finit par devenir une guerre traditionnelle de tranchées, et non la succession de marches rapides et de rencontres décisives qu'il avait appris à attendre. On s'exprime de façon mesurée quand on dit « même un chien ne voudrait pas de cette vie-là plus longtemps ». Car il n'est guère d'animal qui vive dans des conditions plus basses et plus primitives que nous, écrivait un soldat dès le 18 août 1941. Mais la situation du combattant de l'Est était beaucoup plus pénible et démoralisante que celle de ses prédécesseurs de la Grande Guerre, car contrairement à eux, il savait qu'une guerre rapide, décisive et relativement peu coûteuse était possible, mais que cette possibilité avait été gâchée. Pire encore, l'ennemi commença alors, en utilisant des technologies et des tactiques que les soldats allemands ne pouvaient plus employer, à leur faire subir ce qu'eux-mêmes lui avaient fait subir une année plus tôt. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle la guerre de position, mais maintenant j'ai appris. Nos pertes sont lourdes, plus qu'en France, écrivit un soldat chez lui. Mais, continuait-il, cette guerre n'était pas une simple répétition de 14-18, car maintenant il avait le sentiment qu'avaient eu avant lui les Français et les Polonais. « Je n'ai encore jamais vu des chiens aussi durs que les Russes, et leur tactique est imprévisible, et surtout un matériel inépuisable, chars, etc. » On croirait lire une lettre écrite par un soldat français en mai 1940. Pour le Lancer, la technique avait cessé d'être une alliée pour devenir une ennemie. Cette haine du soldat allemand contre les produits destructeurs de la technique dont il était victime sur le front fut encore accentuée par l'intensité et la férocité croissante des bombardements stratégiques auxquels procédèrent les alliés occidentaux à l'arrière, contre les villes et les objectifs industriels. La vieille vision romantique de la guerre se trouva sérieusement ébranlée. Mais pourquoi cette souffrance, en elle-même, n'est-elle pas grande, mais d'une vulgarité et d'une saleté inexprimables ? S'écria un soldat. Les soldats combattants commencèrent alors à rationaliser ces développements en recourant à une sorte d'argumentation nihiliste, teintée de darwinisme social, qui n'est pas sans rappeler celle d'Ernst Jünger, selon laquelle la guerre était non seulement un enfer, mais un enfer dans lequel il fallait être une bête pour avoir une chance de survivre. L'auteur d'une chronique de la division d'élite Grossdeutschland, dans les rangs de laquelle il avait combattu comme officier, a résumé cette nouvelle attitude. L'homme devient un animal. Il doit détruire pour survivre. Ce champ de bataille n'a rien d'héroïque. Le combat revient ici à sa forme la plus primitive, la plus animale. Celui qui ne voit pas bien, qui tire trop tard, qui n'entend pas les pas furtifs sur la terre devant lui, lorsque l'ennemi approche, est éliminé. La bataille ici n'est pas un assaut accompagné de hurrahs dans un champ couvert de fleurs.